Voilà, j'enclenche l'enregistreur. Bonjour, chères sœurs, chers frères. Voilà, je nous invite ce matin à lire quelques versets dans l'épître aux Hébreux. Tellement l'habitude de dire épître de Paul. Justement, cette épître, on n'est pas certain que ce soit Paul. Donc, épître aux Hébreux, donc c'est pratiquement la fin de la Bible, hein, donc l'Apocalypse, les épîtres de Jean, Pierre, Jacques et avant, épître aux Hébreux. On va lire la fin du chapitre 11. Dans ce chapitre 11, l'auteur nous parle de la foi. Il est intéressant de noter que l'épître s'intitule « Épître aux Hébreux ». Donc, je ne suis pas hébreu, je ne pense pas que dans cette église il y ait énormément d'hébreux, mais alors c'est quand même étonnant comme titre. Il est vrai que la lettre s'adresse à des chrétiens d'origine juive, mais puisqu'elle fait partie de l'écriture inspirée de Dieu, on peut dire qu'elle s'adresse aussi à nous, aux chrétiens de tous les temps. Et dans ce chapitre 11, l'auteur va parler de la foi. Il a dit à la fin du chapitre 10, c'est la foi qui sauve. Demeurons dans la foi jusqu'au bout. Et au premier verset, donc les deux premiers versets du chapitre 11, il dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Alors là, j'ai lu dans la traduction du Semeur. Donc, pendant longtemps, j'avais une Bible Louis II. Et là, les termes qui étaient utilisés, c'était la foi, c'est l'assurance. Être sûr de quelque chose qu'en fait, on espère. Et c'est une démonstration. Pour ceux qui ont fait les mathématiques, démontrer quelque chose, c'est vraiment prouver que c'est vrai. C'est vraiment ça. Mais là, c'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Et au verset 2, il dit, c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes du temps passé ont été approuvés par Dieu. Et ensuite, il va nous présenter toute une galerie de super-héros. Des super-héros de la foi. Abraham, Moïse. Waouh, ça, s'il fallait dresser un panthéon, là, je pense que là, ce serait vraiment les places d'honneur. Abraham, sa femme Sarah et tous les patriarches. Et ce verset 2 nous dit que c'est pas parce qu'ils ont accompli de grandes choses qu'ils ont été agréables à Dieu, c'est à cause de la foi. Leur marche avec Dieu a commencé par la foi. Cette foi, ils l'ont vécue. C'est dans cette vie de foi qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait par la grâce de Dieu. Mais ils ont tenu dans cette foi jusqu'à la fin. Et c'est à cause de cette foi qu'ils sont agréables à Dieu. Dieu leur rend un bon témoignage. Dieu dit, celui-là, il est bien. Sa vie me plaît. La Bible dira, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. C'est par la foi que ces hommes ont été agréables à Dieu. Pas par leurs exploits. Lisons à partir du verset 32. Après avoir donné des exemples, comme je disais, des exemples d'illustres anciens. Au verset 32, au chapitre 11, l'auteur nous dit, que dirais-je encore? Donc il a cité plusieurs exemples et là il dit, mais qu'est-ce que je peux dire de plus? Verset 32, chapitre 11. Le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite des armées ennemies des femmes ont vu leur mort ressuscité pour leur être rendue. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été tués à coups de pierre, d'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtus de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et dans les antres de la terre. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. Je relis ce verset. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi et pourtant aucun d'eux, pas même un, n'a reçu ce que Dieu leur avait promis. Verset 40, c'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour qui ?
Pour nous.
Très surprenant dans ce verset. Dieu a prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Amen. Que dirais-je encore ? Il commence à citer les exemples, puis il dit, waouh, mais là, si je m'embarque sur ce chemin-là, franchement, on va y passer la journée. Samson, Gédéon, Barak, Jephté. On a étudié, me semble-t-il, un peu avant l'été, ou peut-être au tout début de l'été, l'histoire de Samson. On a vu qu'il a accompli des choses extraordinaires. Hein, lui qui avait le super pouvoir, la force surhumaine. On connaît l'histoire de David, qui a accompli aussi de grandes choses. Le verset 33 nous dit, « Grâce à la foi, ces personnes ont exercé la justice. » Ils ont été établis, pour certains d'entre eux, comme juges, pour exercer, pour appliquer la justice de Dieu. Ils ont obtenu la réalisation de promesses. Dieu leur avait fait des promesses à ces héros de la foi. Ces promesses ont été réalisées. Cependant, là, on a le prémisse de ce que l'auteur va dire à la fin. Il dit, ils ont obtenu la réalisation de promesses, c'est-à-dire de certaines promesses. Ils ont fermé la gueule de lion. Et là, on pense à qui ? On pense à Daniel dans la fosse au lion. Histoire extraordinaire qu'on raconte... souvent à l'école du dimanche, parce que les enfants sont impressionnés. Mais nous, les grands aussi, on s'est dit, waouh, quel exploit. Ils ont éteint des feux violents. Ils ont échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force. Alors que bien souvent, ils étaient faibles. Voilà une première catégorie de personnes qui ont accompli des exploits par la foi en Dieu. Ils ont cru en Dieu. Ils ont accompli des exploits. D'autres ont cru aussi en Dieu. Peut-être encore plus fort même que ceux qui ont accompli des exploits. Mais ceux-là sont passés par des moments difficiles. Ils avaient la même foi. Mais eux, leur foi, leur vie de foi, s'est manifestée par le fait de résister dans les épreuves, de persévérer dans les difficultés, de tenir ferme, même quand leur vie était menacée. La deuxième partie du verset 35 nous dit, d'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. Ils auraient pu être délivrés, sauver leur vie. Délivrés, là, ça veut dire qu'ils auraient pu sauver leur vie. Mais à quel prix ? En reniant leur foi. Ils n'ont pas voulu. Ils ont donc refusé d'être délivrés. Beaucoup d'entre eux sont morts. Mais pourquoi ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? refuser d'être délivré pour quelque chose qu'on ne voit pas de ses yeux. C'est ça la foi. La ferme assurance. C'est comme si c'était solide. Mais pourtant, on ne voit pas. On a l'impression d'être dans le vide. Mais ça tient. On s'appuie avec foi sur les promesses de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont aspiré à quelque chose de meilleur. La résurrection. Beaucoup de commentateurs estiment que dans ce verset-là, certains ont refusé d'être délivrés parce qu'ils aspiraient à quelque chose de meilleur, la résurrection. L'auteur, là, parle de ce qui s'est passé à l'époque des Maccabées. Ça me donne l'occasion d'ouvrir une petite parenthèse. Nous, dans notre Bible, on n'a pas le livre des Maccabées. Les Juifs eux-mêmes n'ont pas reconnu ce livre comme étant inspiré de Dieu. C'est leur histoire pourtant d'abord. Mais ça ne veut pas dire que ce qui est inscrit dans ce livre est faux. Et dans leur tradition, c'est vrai que là l'auteur s'adresse à des personnes qui connaissent l'histoire juive, ils ont entendu parler de ces choses. Et beaucoup d'exemples qu'il cite là ne sont pas à la lettre dans la Bible. Il parle de personnes qui ont été sciées. La tradition veut que ce soit le prophète Ésaïe qui est mort comme ça, scié à l'époque de Manassé dans un tronc. Ils l'ont mis dans un tronc de bois et ils l'ont scié en deux. On n'a pas la fin du prophète Ésaïe, on n'a pas sa mort dans notre Bible. Mais la tradition juive nous dit que c'est comme ça. Que ce soit comme ça ou pas, gloire à Dieu. Mais l'auteur là le dit, parce que ceux à qui il s'adresse, eux l'ont reçu comme une tradition et eux, ils prennent ça comme une histoire vraie. Mais même sans penser à ces personnes dont la fin n'est pas décrite dans notre Bible, on a aussi dans la Bible des personnes qui ont connu de telles fins et qui ont eu de telles aspirations. Et j'aimerais qu'on se souvienne juste dans le psaume 16. J'ai oublié de noter ma référence, donc je le fais de mémoire. Je crois que c'est le psaume 16. Psaume 16, verset 9 et 10. C'est David qui parle dans un temps de souffrance, un temps de persécution, un temps de lutte, de combat. Et qu'est-ce qu'il dit? Mon cœur est dans la joie, psaume 16. Mon âme exulte d'allégresse. Mon corps repose dans la paix. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Pourtant, il est mort. Je pense que son corps s'est décomposé. Non, dans la tombe. Je n'ai pas vu le corps de David, mais bon, je suppose qu'il s'est décomposé comme tout le monde. Mais là, dans ce psaume, il exprime une espérance. Dans les difficultés qu'il traverse, Dieu va le délivrer. Et même s'il meurt, Dieu est capable de l'arracher de ce séjour des morts-là. Voilà là, exprimé là, les prémices de l'espérance de la résurrection. Même la mort ne m'arrachera pas des promesses de mon Dieu. David a pensé cela et ce psaume est appliqué dans le Nouveau Testament à Jésus-Christ. D'autres ont mené une vie errante, vêtue de peau de mouton, de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. On a du mal quand même à mettre ces deux catégories ensemble. Moi, j'ai du mal. Je me dis, mais ils avaient tous la même foi. D'autres ont tellement brillé, puis d'autres ont souffert. Dieu a fait de grandes choses pour certains. On a l'impression que Dieu a abandonné d'autres. Pas du tout là. L'auteur semble les mettre au même niveau parce qu'ils ont quelque chose qui les unit. C'est la foi. Verset 39. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. Voilà un verset qui me frappe. Quand je lis l'Ancien Testament, j'ai l'impression que beaucoup d'entre eux ont reçu ce que Dieu avait promis. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ils n'ont pas reçu, en fait. On se trompe. Si on pense ça, on se trompe. J'en déduis que ils ont accompli des choses grandes sur la terre. Certains ont donné leur vie. Mais la promesse de Dieu n'était pas limitée à ce qu'ils ont fait sur terre. La promesse de Dieu était encore plus grande. Dieu leur a promis quelque chose de bien plus grand qu'ils n'ont pas vu de leurs yeux. Ils n'ont pas obtenu. Dieu a dit à Abraham, tu auras une descendance comme les étoiles. Il a eu déjà du mal à avoir un seul enfant, disons. Il n'a pas vu une descendance aussi grande que les étoiles. Dieu a promis à Moïse qu'il ferait entrer son peuple dans la terre promise, une terre vraiment bénie où le peuple de Dieu va marcher en communion avec son Dieu. Moïse ne l'a pas vu. Il a tout préparé pour, mais il ne l'a pas vu de ses yeux. Moi, je trouve que c'est quand même une tristesse. Je me dis, waouh, ils se sont accrochés tellement, tellement pour des choses. Et ce verset nous dit qu'ils ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas reçu ce que Dieu leur avait promis. Dieu a promis à David une descendance éternelle. Ce n'est pas juste 1, 2, 3, Salomon, etc. Non, c'est tout le temps. Mais il n'a pas vu, puisqu'il est mort avant. Pour le voir, il aurait fallu que lui, David, il soit éternel. Mais il est mort. Il n'a pas reçu de son vivant la promesse extraordinaire que Dieu lui a faite. Serait-ce là un sujet de déception, un sujet de découragement. Pour nous qui sommes invités à prendre ce chemin de foi, est-ce que cette parole nous encourage vraiment à suivre ce chemin de foi? Ceux-là qui nous sont cités dans la Bible comme des exemples, des modèles, eh bien, ils n'ont même pas reçu ce que Dieu leur a promis. Mais le verset 40 nous explique pourquoi. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur. Et c'est ça, moi, qui me surprend. C'est que Dieu a prévu quelque chose de meilleur pour nous. Je ne sais pas ce que ce nous vient faire là, à la fin de cette galerie de personnages illustres de la Bible. Dieu a prévu quelque chose de meilleur. Je veux bien, mais pour nous, il s'adresse à ces chrétiens d'origine juive et il s'adresse aussi à nous. Dieu a prévu, avait planifié quelque chose de meilleur pour nous. C'est quoi ce quelque chose de meilleur? Quand on lit l'épître aux Hébreux, si vous lisez toute l'épître, le mot meilleur revient beaucoup. Au chapitre 7, au verset 19, il est dit « une meilleure espérance ». Au chapitre 7 et au verset 22, il est dit « une meilleure alliance ». Au chapitre 8, au verset 6, il est dit « de meilleures promesses ». Au chapitre 9 et au verset 23, il est dit « un meilleur sacrifice », etc. Et là, dans ce verset 11-40, l'auteur semble résumer tout ça en disant « quelque chose de meilleur ». En grec, c'est comme s'il, je ne sais pas comment dire, c'est comme s'il disait du meilleur. C'est pour résumer tout ça, quoi. Une meilleure espérance, une meilleure alliance, une meilleure promesse, un meilleur sacrifice. En gros, du meilleur. Dieu avait prévu quelque chose de meilleur, du meilleur pour nous. L'auteur, dans les chapitres qui précèdent et qui suivent, va résumer sa pensée. Ce meilleur dont il parle, c'est ce que Jésus-Christ a accompli. C'était ça, ce que Dieu avait de meilleur. Le sacrifice de Jésus est meilleur. Pourquoi? Parce qu'il est valable une fois pour toutes. Remplace les autres sacrifices. Ça ne veut pas dire que les autres étaient inutiles ou quoi, mais désormais, à cause de ce sacrifice à la croix qui a lieu une seule fois pour toutes, il n'y a plus besoin de faire de nouveaux sacrifices. L'alliance dans le sacrifice de Jésus est bien meilleure. L'alliance, l'ancienne, était basée sur la loi. La loi ne pouvait pas rendre pur, ne pouvait pas rendre juste. Cette alliance basée sur la grâce nous justifie. Cette alliance nous réconcilie une fois pour toutes avec Dieu. Grâce à cette alliance et par la foi que nous avons en Jésus, nous sommes déclarés justes aux yeux de Dieu. Et cela, c'est une fois pour toutes. L'ancienne alliance ne le pouvait pas. Notre espérance en Jésus, pourquoi est-ce qu'elle est meilleure? Les patriarches de l'ancienne alliance avaient aussi de sacrées espérances. Royaume de Dieu, un roi, un empire, un royaume uni, une terre qui appartienne au Fils de Dieu, au peuple de Dieu. Mais notre espérance est encore meilleure. Elle est meilleure parce que Jésus-Christ nous ouvre la porte du royaume de Dieu. Ce royaume est incorruptible, il est éternel. Et il me semble un verset qui décrit bien cela, c'est Hébreux 12, donc justement deux, trois versets après. Hébreux 12, verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui porte à la perfection. Et qui la porte à la perfection. Je relis. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Le verset 40 dit, c'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Et il explique, il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Et ce verset d'Hébreux 12, 2 nous explique que c'est Jésus qui a accompli à la perfection ce que Dieu avait prévu. Et c'est pour ça que nous sommes invités à garder les yeux sur lui. Voyez, tous ces patriarches que nous considérons à raison comme des héros de la foi, ils ont tous soupiré en attendant un jour où tout sera parfait, un jour où tout sera parfait, un jour où Abraham pourra être assis au milieu de ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Moïse a dû soupirer après un jour où le peuple de Dieu sera rassemblé autour de Dieu, comme ça, où il n'y aura plus besoin de guerre, de conquête, et où le peuple de Dieu va arrêter de murmurer. Il a dû y penser, un jour tout sera parfait, mais ils ne l'ont pas vu de leurs yeux. Mais et nous, puisque ce verset parle de nous, est-ce que nous, on a vu ce jour où tout est parfait? Je ne sais pas qui peut répondre ici, qu'il a vu ce jour où tout est parfait. Je vois Martina, qui est très honnête, qui dit, non, pas tout à fait. Il y a encore les mêmes combats, les mêmes épreuves, les mêmes difficultés, les mêmes souffrances. Pourtant, si notre sort, frères et sœurs, est bien meilleur que celui de ces héros de la foi de l'ancienne alliance. C'est extraordinaire. Il n'y a que la Bible pour dire ça, parce que franchement, je ne sais pas quel prédicateur peut dire ça. Que toi qui es assis ici en ce matin, tu es mieux qu'Abraham ou Moïse. Moi, je ne peux pas le dire. Je le dis parce que la Bible le dit. Notre sort est meilleur. Il faut qu'on retienne ça, frères et sœurs. Notre sort est meilleur. Pas parce que nous sommes plus beaux, pas parce que nous sommes plus forts dans la foi, bien souvent, loin de là. Vous en conviendrez bien. Mais parce que eux, les patriarches de l'ancienne alliance, ils ont soupiré après un jour qu'ils n'ont pas vu Et ce jour, nous le contemplons aujourd'hui depuis que Christ est mort à la croix. Nous le contemplons dans son accomplissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre une image. Si tu dis, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, quand je serai grand, quand j'aurai plus d'argent, je m'achèterai une maison. Tu te prépares et tout, voilà. Tu n'as pas encore les moyens d'avoir la maison. Tout ça, c'est dans ta tête. Tu te prépares. Mais quand même, la maison, j'espère que j'aurai la maison. Mais le jour où tu signes l'acte chez le notaire, tu n'es pas encore dans la maison pourtant, parce que des fois, il faut bien plusieurs mois. Mais c'est comme si tu étais déjà dans la maison. Parce que tu as l'acte du notaire qui prouve que tu es propriétaire de cette maison. Tu n'y habites pas encore, mais tu sais que tu y seras. C'est ça la condition des chrétiens depuis la mort de Christ à la croix. Nous espérons pas quelque chose que nous imaginons. Jamais de la vie. Nous espérons quelque chose qui est déjà en cours. Jésus est monté et nous prépare une place dans la nouvelle Jérusalem. Ça peut ressembler à une promesse, comme celle de l'ancienne alliance, frères et sœurs, mais je veux qu'on comprenne que c'est bien plus qu'une promesse. C'est une réalité. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est en train de balayer, de passer l'aspirateur pour nous préparer une place. Et on sait qu'on y sera. C'est bien mieux que l'espérance de ceux de l'ancienne alliance. C'est vrai qu'en ce matin, je suis comme vous, je suis fatigué, abattu. On se débat peut-être plus que ceux de l'ancienne alliance face au chômage, à la solitude, aux difficultés, aux maladies. On s'est dit, oh là là, qu'est-ce qu'on souffre, qu'est-ce qu'ils étaient bien à l'époque. Et pourtant, Jésus, quand il parle d'eux, il dit, mais ils auraient voulu voir ce que vos yeux voient. Quand Jésus parle aux ceux qui l'ont connu de chair, il dit, mais vous ne vous rendez pas compte, les prophètes qu'ils ont annoncés avant, ils auraient voulu le voir. Pourtant, nous, on s'est dit, oh là là, eux, c'était des héros. Mais ils nous envient. Parce que nous voyons quelque chose qui est accompli et qui va se révéler véritablement le jour où Jésus viendra nous chercher. Le retour de notre Seigneur. Et c'est ce jour-là que les croyants de l'ancienne alliance qui ont cru aux promesses de Dieu, ainsi que nous de la nouvelle alliance qui croyons en Jésus, on sera réunis et ça sera le moment de vivre véritablement la perfection. Frères et sœurs, la prédication d'aujourd'hui, un peu dans le même esprit que celle de la dernière fois sur la femme adultère, je veux simplement nous encourager. C'est une exhortation. C'est une exhortation. C'est un encouragement. La foi que nous avons, c'est une foi en quelque chose de meilleur. Parce que Christ est mort à la croix et il a accompli quelque chose de réel qui est acquis une fois pour toutes. On peut regarder l'accomplissement de ses promesses un peu comme quelque chose de passé. Même si on se projette, comme le montre cette belle fresque-là, on se projette vers le jour où ça sera vraiment une réalité concrète pour nous. Mais en fait, pour Dieu, elle est déjà accomplie. Alors, si notre alliance est meilleure, si notre espérance est meilleure, si le sacrifice de Jésus est meilleur, alors là, il y a un problème. C'est que notre foi, elle doit être... C'est bizarre, j'entends plus personne. Parce que vous savez ce à quoi ça va nous engager. Oui, vous l'avez bien compris. Ah, notre foi doit être meilleure. Ah oui, c'est pas une meilleure promesse. Et puis bon, allez, meilleure alliance, meilleure espérance. Et puis... Non, notre foi doit être meilleure. Notre vie de foi doit être meilleure. Et là, c'est concret. Notre vie de foi doit être meilleure. Et je ne vais pas me laisser décourager parce que je n'ai pas de mari. Je ne vais pas me laisser décourager parce que je n'ai pas de travail. Je ne vais pas me laisser abattre parce qu'un tel me dit, toi, tu te fatigues à aller à l'église le dimanche, mène ta petite vie, et puis c'est bon, arrête. Jamais j'ai le regard porté sur quelque chose de bien meilleur. Je ne me laisse pas décourager. Je marche jusqu'au bout, par la foi. Amen. Notre alliance, notre espérance, nos promesses, ce sacrifice est meilleur. Non pas à cause de nous, mais parce que Jésus-Christ est meilleur. Et c'est pour ça que ce verset nous dit, garde les yeux fixés sur Jésus. Arrête de regarder ton frère. Peut-être que... oui. Arrête de regarder ta sœur. Arrête de regarder ton ennemi. Arrête de regarder ton patron qui te prend la tête. Arrête de regarder tel collègue avec qui tu n'as pas d'affinité. Garde les yeux sur Jésus. C'est la meilleure promesse, la meilleure espérance. Amen. J'aimerais conclure avec un verset. Hébreux 12, verset 24. La Bible, dans sa grande sagesse, le Seigneur est toujours équilibré. Des belles promesses, eh bien, donnent sur de gros, gros avertissements, sur de grosses mises en garde aussi. Hébreux 12, verset 24, si ma note est bonne. Vous vous êtes approché de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu, qui parle mieux encore que celui d'Abel. Et qu'est-ce qu'il nous dit après? Prenez donc garde. Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Si tu as compris que cette promesse est meilleure, si tu as compris en ce matin l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, chers frères, chères sœurs, ne t'endurcis pas et prends garde. Prends garde à toi. La suite du verset dit, les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment. Ils avaient aussi une alliance, des belles promesses. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas échappé au châtiment. Nous avons des promesses plus glorieuses. Nous pouvons ne pas écouter. Nous n'échapperons pas au châtiment. Cependant, ce n'est pas sur cette note négative que j'aimerais nous laisser en ce matin, mais plutôt mettre les projecteurs encore une fois sur la croix de Jésus. Jésus t'appelle en ce matin, Jésus t'attend. Donne ta vie à Jésus, garde les yeux fixés sur cette meilleure espérance. Amen.